Réflexion sur le procès de la reine. Madame de Staël. Avertissement. Mon nom ne pouvant être utile, doit rester inconnu. Mais pour affirmer l'impartialité de cet écrit, j'ai besoin de dire que parmi les femmes appelées à voir la reine, je suis une de celles qui a eu avec cette princesse le moins de relations personnelles. Ces réflexions méritent donc la confiance de tous les cœurs sensibles, puisqu'elles ne sont inspirées que par les mouvements dont ils sont tous animés. Réflexion sur le procès de la reine. Mon projet n'est point de défendre la reine comme un jurisconsulte. J'ignore de quelle loi l'on peut se servir pour l'atteindre, et ces juges eux-mêmes ne cesseront pas à la prendre. Ce qu'ils appellent l'opinion, ce qu'ils croient la politique, sera leur motif et leur but. Les mots de plaidoyer, de preuve, de jugement sont une langue convenue entre le peuple et ses chefs, et c'est à d'autres signes qu'on peut présager le sort de cet illustre infortuné. Je vais donc seulement parler à l'opinion, analyser la politique, raconter ce que j'ai vu, ce que je sais de la reine, et représenter les suites affreuses qu'aurait sa condamnation. Ô vous, femmes de tous les pays, de toutes les classes de la société, écoutez-moi avec l'émotion que j'éprouve. La destinée de Marie-Antoinette contient tout ce qui peut toucher votre cœur. Si vous êtes heureuse, elle l'a été. Si vous souffrez depuis un an, depuis plus longtemps encore, toutes les peines de la vie ont déchiré son cœur. Si vous êtes sensible, si vous êtes mère, elle a aimé de toutes les puissances de l'âme. Et l'existence a pour elle encore le prix qu'elle conserve, tant qu'il peut nous rester des objets qui nous sont chers. Je ne veux prononcer aucune opinion politique. Je craindrais de distraire, d'éloigner un seul intérêt de l'auguste personne que je vais défendre. Républicain, constitutionnel, aristocrate, si vous avez connu le malheur, si vous avez eu le besoin de la pitié, si l'avenir offre à votre pensée une crainte quelconque, réunissez-vous tous pour la sauver. Quoi ? La mort terminerait une si longue agonie ? Quoi ? Le sort d'une créature humaine pourrait aller aussi loin en infortune ? Ah ! Mourons si cela est possible. N'existons pas dans un monde où de telles chances errent sur la destinée. Mais je dois contenir la profonde tristesse qui m'accable. Je ne voudrais que pleurer. Et cependant, il faut raisonner, discuter, un sujet qui bouleverse l'âme à chaque instant. La calomnie s'est attachée à poursuivre la reine, même avant cette époque où l'esprit de parti a fait disparaître la vérité de sur la terre. Une triste et simple raison en est la cause. C'est qu'elle était la plus heureuse des femmes, Marie-Antoinette la plus heureuse. Hélas, tel fut son sort, et le destin de l'homme est si déplorable que le spectacle d'une éclatante prospérité pèse sur le cœur de tous. Combien de fois n'ai-je pas entendu raconter l'arrivée en France de la fille de Marie-Thérèse, jeune, belle, réunissant à la fois la grâce et la dignité, telle que dans ce temps se serait imaginée la reine des Français, imposante et douce. Elle pouvait se permettre tout ce que sa bonté lui inspirait, sans jamais rien faire perdre à la majesté de ce rang qu'on exigeait d'elle alors de respecter. L'ivresse des Français en la voyant fut inexprimable. Le peuple la reçut non seulement comme une reine adorée, mais il semblait aussi qu'il lui savait gré d'être charmante, et que ses attraits enchanteurs agissaient sur la multitude comme sur la cour qui l'environnait. Il n'y a pas 5 ans encore, et alors toute sa vie publique, tout ce qui lui a mérité l'amour ou la haine, était écoulé. Il n'y a pas 5 ans. Et j'ai vu tout Paris se précipiter sur ses pas avec transport, ces mêmes routes qu'on lui fait parcourir de supplice en supplice étaient jonchées de fleurs sur son passage. Elle doit reconnaître les mêmes traits qui l'ont accueillie, les mêmes voix qui s'élevaient au ciel en l'implorant pour elle. Et depuis ce temps, qu'est-il arrivé? Son courage et son malheur. Cet enthousiasme dont le souvenir ajoute à l'amertume de sa destinée. Cet enthousiasme dont le souvenir aussi doit inquiéter les Français et les rendre douteux de leur nouveau jugement, ne pourrait décider l'opinion de l'Europe sur la reine, mais en écartant même le respect profond qu'inspire son auguste infortune, au seul nom de la vérité, il est ordonné de dire que personne ne diffère autant qu'elle de la réputation que ses ennemis ont tenté de lui donner. On n'a pas même cherché la vraisemblance dans le mensonge, tant on a compté sur l'envie, tant elle sait répondre à l'affreuse attente des calomniateurs. La reine ne s'est d'abord occupée des affaires que pour accomplir quelques actes de bienfaisance ou de générosité. On a quelquefois trouvé qu'elle était trop facile pour les uns et les autres, et cette femme, si courageuse en présence de la mort, a pu être accusée de faiblesse quand le malheur ou l'amitié désiraient de se servir d'elle. Mais en parcourant les registres des finances, l'on peut voir que ses dons même ne se sont élevés qu'à la somme la plus modérée, et il faut bien égarer le peuple pour parvenir à lui persuader que les impôts dont il était surchargé venaient de dépenses qui ne s'élevaient pas à la hauteur du quart de la liste civile décrétée par l'Assemblée constituante. La guerre d'Amérique, les déprédations des ministres, des abus de tout genre inconnus à une jeune reine, comme à la plupart des hommes d'État d'alors, causèrent ce déficit dans les finances, dont les effets ont été si terribles. Mais est-il possible d'oser l'attribuer à 2 ou 3 millions distribués chaque année en bienfaits, dont la plupart retournaient entre les mains du pauvre et de l'infortuné? Vous qu'elle a secouru, vous qui êtes parmi ce peuple aujourd'hui tout puissant, dites si vous souffrirez qu'au nom de votre intérêt on punisse la reine des généreux effets de sa pitié pour vous. Et vous, mère de famille, qu'une prédilection si touchante l'engageait à préférer. Dites, si c'est vous, qui demandez qu'on l'accuse pour les dons qu'elle vous a prodigués. Le roi aimait la reine avec tendresse, et son dévouement pour lui et ses vertus maternelles ont bien justifié ce sentiment. Mais cependant, il ne la consulta presque jamais sur le choix de ses ministres. Monsieur de Maurepas, dès les premiers jours du règne de Louis XVI, se montra contraire à la reine. Il rivalisa sa jeune influence sur un jeune roi et parvint à l'écarter absolument des affaires dont les goûts de son âge l'éloignaient déjà naturellement. Monsieur de Maurepas fit renvoyer 2 ministres citoyens, Monsieur Turgot et Monsieur Necre, et la reine marqua publiquement qu'elle estimait et regrettait tous les deux. Monsieur de Vergennes continua gravement les frivoles systèmes de Monsieur de Maurepas, et craignant de même l'ascendant de la reine, de même, il sut détourner le roi de s'y livrer. Monsieur de Calonne lui succéda, et rien n'est plus connu que l'aversion énergique de la reine contre ce ministre. Son esprit aimable, cependant, semblait devoir séduire ceux dont le jugement ne serait pas uniquement guidé par la réflexion. La reine, qui eût trouvé dans la facilité du caractère de monsieur de Calonne tant de moyens de satisfaire ses goûts s'ils avaient été prodigués, la reine, sortant tout à coup du cercle habituel de ses devoirs et de ses amis, attaqua ce ministre élégant avec l'austérité de la morale et de la raison, décida le roi à le renvoyer, et signala par cet acte et par la nomination de l'archevêque de Sens sa première influence sur les affaires publiques. J'en appelle à tous ceux qui, placés près de la cour, ont pu savoir avec certitude l'histoire intime de la France. Est-il une autre époque du règne du roi dans laquelle la reine lui ait fait adopter ses conseils? Et n'est-il pas certain que jusqu'à ce temps, elle jouit de l'éclat du trône sans rechercher son autorité? Ce ministère de l'archevêque de Sens, cause immédiate de la Révolution, peut être blâmé par les partisans du système aristocratique. Mais assurément, les démocrates doivent l'approuver. C'est par cette administration que le germe de tous leurs principes a été développé. Le ministre opposa lui-même les communes au Parlement, à la noblesse, au clergé. Le roi déclara que le droit d'imposer ne lui appartenait pas. Les états généraux furent promis, tous les Français invités à publier leur avis sur le mode de convocation. Enfin, les observateurs de ce temps crurent deviner que l'archevêque de Sens voulait une révolution en France. Et depuis, il l'a professé lui-même par sa conduite et ses discours. J'ignore jusqu'à quel point la reine savait son secret. Mais quand le seul ministre qu'elle a fait nommer s'est montré démocrate, quand la seule époque dans laquelle elle est prise quelque part aux affaires est celle où les principes de ce jour ont commencé à être admis, comment peut-on l'accuser d'être ennemie de la liberté? Comment peut-on lui trouver des crimes? Des crimes? Ah, quelle expression en parlant d'elle! Jadis, peut-être, brillante et frivole comme le bonheur et la beauté, son caractère ne s'est prononcé, n'a attiré l'attention de l'Europe, n'a redoublé la haine de ses détracteurs que par des traits de courage et de sensibilité qui supposent toutes les vertus. Qu'a-t-on fait pour détacher les Français de cet aimable objet si semblable à tout ce qui savait leur plaire? On leur a dit que Marie-Antoinette détestait la France, qu'elle était autrichienne. Et c'est par ce nom que, dans leur fureur, ses ennemis l'ont toujours appelée. Certains de frapper ainsi l'esprit du peuple qu'un mot égare, qu'un mot rallie, qui ne se passionne jamais que pour les idées qui s'expriment par un seul mot. L'envie voyait que tous les cœurs étaient prêts à chérir Marie-Antoinette. Le plus sûr moyen de les éloigner était de leur persuader qu'ils n'obtiendraient que haine pour prix de leur amour. Bientôt, on y réussit. Était-il cependant assez insensé de croire que la reine, partie de Vienne à 13 ans, ne pouvant obtenir dans sa patrie qu'un rang secondaire, la préférait à la France dont elle était reine, à la France, ces jours si délicieux, aux Français, avec lesquels sa grâce et sa gaieté lui donnaient alors tant d'analogies. Ah, lorsqu'en la nommant je viens à parler d'éclat et de gaieté, mon cœur se serre douloureusement. Je me rappelle ce tombeau, placé près des lieux où l'on donnait des fêtes, avec cette inscription. Et moi aussi je vivais en Arcadie. Elle existe encore, l'infortunée qui me retrace ce souvenir. Mais hélas, cette triste allusion n'en est que plus déchirante. Les fêtes, c'était un trône. La tombe, c'est un cachot. Toutes les vraisemblances doivent prouver l'attachement de la reine pour la France. Et quel fait peut-on alléguer pour détruire de si fortes conjectures? L'alliance de l'Autriche avec la France, C'est en 1756, avant la naissance de Marie-Antoinette, qu'elle a été conclue. Depuis, aucune raison de la rompre ne s'était présentée. Aucun ministre ne l'avait proposée. Il est vrai que la reine ne s'est pas mêlée de la politique de France uniquement pour brouiller sa mère ou son frère avec son mari. Il est vrai que toute sa vie est une preuve de son respect pour les liens de la nature. Mais une vertu, loin d'effrayer, doit rassurer sur toutes les autres. Elles s'entraînent réciproquement. Et si la reine se fût montrée l'adversaire de sa propre famille, c'est alors que sa patrie adoptive, que la France aurait dû se défier d'elle. La lumière a été portée dans tout ce qu'on croyait le plus secret. Des milliers d'observateurs ont été chargés d'examiner les traces de l'ancien gouvernement. On a honoré la dénonciation, épouvanté la fidélité, offert à la terreur la sécurité dégagée de la honte, au fanatisme le succès à l'abri du danger. Toutes les passions humaines ont été mises en liberté pour se diriger toutes contre la puissance passée, contre des objets qu'on se souvient d'avoir enviés, qu'on est certain de ne plus craindre. Voilà les moyens d'attaque, et voyez quelles sont les preuves, les faits qu'on a conquis. Existe-t-il un seul indice de la connivence de la reine avec les Autrichiens, d'un secours particulier donné par la France à cette cour, d'une seule démarche étrangère au traité public conclu entre les deux puissances? Ah, la plus belle justification de cette malheureuse victime, ce sont les accusations dont on l'accable. Quelle vague, quelle fureur, que d'insultes, que d'adresses, que de moyens étrangers à la vérité, plus efficaces qu'elle sur un peuple passionné, mais qui ne peuvent un instant même faire illusion aux hommes éclairés, et leur hôte jusqu'à la douloureuse consolation de découvrir quelque tort qui puisse diminuer l'amertume de leur pitié. Cependant, pour exciter la multitude, on a cessé de répéter que la reine était l'ennemie des Français, et l'on a donné à cette inculpation les formes les plus féroces. Je ne sais rien de plus coupable que de s'adresser au peuple avec des mouvements passionnés. On peut les pardonner à l'accusé, mais dans l'accusateur, l'éloquence même est un assassinat. Cette classe de la société, qui n'a pas le temps d'opposer l'analyse à l'assertion, l'examen à l'émotion, gouvernera comme elle est entraînée, si en lui accordant un grand pouvoir, on ne fait pas un crime national de tous les genres d'altération à la vérité. La vraisemblance n'est rien pour un homme qui n'a pas réfléchi d'avance. Au contraire même, plus il est étonné, plus il se plaît à croire. La reine aurait voulu le malheur de l'empire où elle régnait, de la nation sur laquelle reposait sa gloire, son bonheur et sa couronne. Mais c'est assez de la juger par son intérêt. Elle mérite davantage. Elle est bonne par sa nature. Elle est bonne à ses propres périls. Dites, vous qui l'accusez, dites quel est le sang, quels sont les pleurs qu'elle a jamais fait couler. Dans ces anciennes prisons que vous avez ouvertes, avez-vous trouvé une seule victime qui accusa Marie-Antoinette de son sort ? Aucune reine, pendant le temps de sa toute-puissance, ne s'est vue calomnier aussi publiquement. Et plus on était certain qu'elle ne voulait point punir, plus on multipliait les offenses. Je vois qu'elle fut l'objet de très sans nombre d'ingratitudes, de milliers de libelles, de procès révoltants, et je cherche en vain la trace d'une action vengeresse. Il est donc vrai qu'elle n'a causé le malheur de personne, celle qui souffre ces tourments inouïs. Il n'entre pas même de ressentiment dans les supplices qu'on lui fait éprouver. Qu'est-il donc arrivé à l'homme pour abjurer ainsi tout sentiment d'humanité ? Comment renouvelle-t-il cette inépuisable fureur? Quelle force ou quelle faiblesse donne à des passions factices cet ascendant terrible? Telle a été la conduite de la reine tant qu'elle régnait, tandis que ses véritables sentiments pouvaient se satisfaire sans crainte, ce serait bien assez, je crois, pour repousser tous les soupçons dont on l'a environnée pendant la Révolution. Comment aurait-elle déployé un caractère si différent de celui qu'elle avait prouvé jusqu'alors? À l'époque où, se trouvant aux prises avec le malheur, elle a réuni toutes ses forces pour une résolution sublime, pour une résolution que la gloire et le ciel peuvent seuls récompenser, celle de s'attacher au sort de son époux et de ses enfants, et dans l'orage des événements politiques, de se fixer à l'accomplissement de vertus intérieures. Mais sa constance dans cette route a demandé tant d'héroïsme que les révolutionnaires ont dû bénir le sort du sentiment qui décida la reine à borner à l'exercice de ses devoirs particuliers l'emploi de ce courage surnaturel. La vénération de l'Europe ne peut jamais se détacher de la mémoire de Louis XVI. Devant ce tribunal, il faudrait, s'il était possible, réunir plus intimement encore le nom de la reine à celui de son auguste époux. Cependant, les variations de système qu'on peut reprocher au dernier temps de l'administration, la constante incertitude de ses principaux agents, sont une preuve manifeste qu'ils n'étaient pas soumis à l'autorité de la reine. C'est un fait positif que la plupart d'entre eux peuvent à peine se vanter de l'avoir vu, et dans leur délibération, personne n'a dû reconnaître l'intrépide fermeté de la fille de Marie-Thérèse. On sait seulement que le 6 octobre, le 20 juin, le 10 août, lorsqu'il fut proposé de se défendre en exposant le sang des Français, la reine n'écouta plus que les sentiments d'une femme, la sollicitude d'une mère, et ne redevint un héros qu'au moment où l'on menaça sa propre vie. Vous qui l'avez vu regarder ses enfants, vous qui savez que nul péril ne put la résoudre à se séparer de son époux, alors que tant de fois les chemins lui furent ouverts pour retourner dans sa patrie, croyez-vous que son cœur était barbare ou tyrannique? Ah, qui s'est aimé n'a jamais fait souffrir. Qui peut être puni dans l'objet qu'il chérit, redoute la vengeance céleste. Oui, si parmi les juges de Marie-Antoinette, il en est un qui soit père, qui ressente une affection douce, il sera juste et courageux. À travers les calomnies que l'on apprête, l'instinct de l'âme lui fera découvrir la vérité, et des souvenirs et des rapprochements sensibles le rendront incapable d'achever un tel malheur. Mais de quelle ruse ne se sert pas la haine? Elle sait, comme l'amour, tout ce qui peut émouvoir. Et, d'avance, elle prévient tous les effets de la vérité. Elle cherche bassement à déjouer le respect, l'intérêt que doit inspirer la reine, par ce genre de calomnie dont il est si facile de flétrir toutes les femmes. Par ce genre de calomnie dont l'injustice même peut avilir presque autant que la vérité. Mais cependant, la reine est par sa destinée au-dessus de ce sort commun des femmes. Trop d'éclat environne son existence pour ne pas dissiper tous les mensonges. Ceux qui l'ont entourée, les seuls vrais juges de sa vie privée, savent qu'elle ne fut point indigne des vertus qui depuis 4 ans la font admirer de l'Europe entière. L'âme s'affaiblirait en se dégradant. Et celle qui par sa seule fierté s'est agrandie dans l'infortune, s'est relevée en présence de l'outrage, ne s'était jamais abaissée à ses propres yeux. Vous essaierez en vain de l'humilier. Vous l'appellerez de nom méprisant. Vous la jetterez dans une prison infamante. Vous la traînerez à la barre de votre tribunal. Mais, partout, elle vous apparaîtra comme la fille de Marie-Thérèse. Tantôt, vous croirez la voir, lorsque le 6 octobre, elle s'avança sur ce balcon en présence du peuple, environnée de ses deux enfants, le charme de son cœur et la gloire de sa vie. La multitude irritée lui cria « Point d'enfant !» La reine, à ces mots terribles, craignant de leur faire partager son péril, se hâta de les éloigner. Mais elle revint aussitôt pour se livrer seule, ou ne pas déshonorer la nation française en paraissant les soupçonner. Le soir de ce même jour, aussi calme que dans une entrée triomphale, elle s'adressa au maire de Paris, pour l'assurer qu'elle et le roi se remettaient avec confiance à la garde du peuple de Paris. Confiance d'estime, confiance de courage, laquelle veut-on tromper? Vous vous rappellerez le 20 juin, lorsque sa seule présence désarma les projets qui depuis ont éclaté. Restée belle à force de courage, ses ennemis ne furent plus écoutés du peuple qui la regardait. Mais, à la fin de ce jour mémorable, son fils fut séparé d'elle par la multitude qui l'environnait. À cet instant, tout son courage l'abandonna. Un grenadier de la garde nationale le rapporta dans ses bras et, l'élevant au-dessus de la foule, avança d'un moment le bonheur de sa mère. La reine, alors, tombant à genoux, se prosterna devant son libérateur. Auguste reconnaissance, spectacle plus imposant que le trône dont elle descendait. Mais, si devant le tribunal où la reine doit être traduite, elle conserve encore toute sa fierté. Que le peuple, du moins, ne s'irrite pas à cet aspect, qu'il honore le courage, en sachant approuver jusqu'à la noble résistance dont il se croirait l'objet. Si vous voulez affaiblir ce grand caractère, amenez-lui ses enfants, mais n'espérez rien de vos supplices. Ils ne l'empêcheront pas de se conserver tout entière pour le jugement de l'histoire et l'éclat du nom de son fils. Ah, loin de l'en haïr, intéressez-vous à ce sublime exemple si vous êtes républicain. Respectez les vertus que vous devez imiter. Cette âme qui ne sait point se courber, cette âme aurait aimé la liberté romaine, et vous avez besoin de son estime, alors même que vous la persécutez. Lorsqu'on a tant de peine à concevoir la possibilité d'une atrocité, qu'il en coûte extrêmement pour s'attacher à l'examen des motifs qui peuvent l'y décider, il le faut cependant, pour mieux les combattre. Et je m'essaie à ce travail aussi pénible que nouveau. Les hommes principaux d'un parti populaire cherchent tous les moyens de lier le peuple indissolublement à leur propre cause. Ils savent que dans toutes les révolutions, la gloire ou les revers n'appartiennent qu'au chef. Et, craignant que le peuple ne se fie à cette certitude, ils veulent s'identifier avec lui de toutes les manières. Ils tâchent de lui persuader qu'il est le véritable auteur des actes, qui ne laisse, après eux, aucun espoir de retour. Mais d'abord, l'exécution du roi réunit ses cruels avantages. La Convention, pour multiplier les juges de Louis XVI, perdre la trace de sa condamnation dans la multitude qu'il aurait portée, la Convention s'est fait applaudir par des spectateurs nombreux. S'est assurée de plusieurs adresses des divers départements du royaume, a commandé que 100 000 hommes en armes, le jour de la mort du roi, consentissent par leur silence à cette terrible catastrophe. Si la subdivision infinie de cette énorme action ne suffisait pas pour attacher le peuple au dessein de ceux qui l'ont ordonné, s'il venait à penser qu'un empire consistant plus encore dans la nation que dans son sol, quelles que soient les opinions de ceux qui gouvernent, ils ne peuvent pas vouloir détruire ce qu'ils aspirent à dominer, et que la multitude, étant un être collectif, peut ressentir le poids des lois générales. Mais jamais l'atteinte des vengeances individuelles, Si le peuple, rassuré par cette opinion, voulait favoriser un autre parti en France, s'il ne redoutait point pour lui la mort du roi, est-ce celle de la reine qui pourrait l'effrayer? Il me semble, il est vrai, qu'il y aurait dans le supplice de cette malheureuse princesse quelque chose de plus révoltant encore pour les âmes généreuses. Étrangères, femmes, on violerait en elles et les lois de l'hospitalité et celles de la nature. Les circonstances actuelles aussi donneraient peut-être à cet attentat une plus haute importance politique. Mais ces considérations sont faites pour ne frapper que le petit nombre, et le dernier terme de toutes les idées qui peuvent émouvoir le peuple se trouvait dans l'exécution du roi. La condamnation de la reine serait donc un crime inutile, et par cela même plus avilissant. On y verrait ou le besoin de la férocité, ou la terreur panique du remords. Imaginerait-on de redoubler le courage du peuple en l'enivrant du sang d'une nouvelle victime? Mais cette affreuse ressource est maintenant épuisée. Soit qu'on est tellement accoutumé à l'idée de la mort que la prodiguer encore n'exciterait plus aucun genre d'émotion. Soit que toutes les âmes absorbées par l'intérêt de leur propre malheur ne puissent plus s'agiter au nom même de la vengeance. Voudrait-on enfin donner au peuple une plus grande confiance dans la situation des affaires en se décidant à prendre une résolution plus dangereuse que toutes les autres? Mais combien ce calcul serait faux! Ce qui suppose le calme, c'est la sagesse des délibérations. Mais tous les excès sont également une preuve du trouble de l'âme. Et c'est la raison seule qui tout à la fois ou préserve des périls, ou témoigne qu'on a cessé de les craindre. Ces motifs, pourrait-on dire, ces motifs ne sont point la véritable cause du danger qui menace la reine. Mais son nom, mais son fils, inspire plus d'intérêt que le reste de la famille des Bourbons. Plus de vœux se réuniraient autour d'elle. Il faut donc se hâter de l'immoler. Et savez-vous pourquoi? Cette auguste infortunée captive encore les cœurs français. C'est parce qu'on est certain que ses sentiments ont été favorables à la vraie liberté. C'est parce qu'on a la preuve qu'elle s'est constamment opposée aux projets hostiles des princes français et n'a voulu former aucune coalition avec eux. C'est parce que sa mort aiderait de plusieurs manières ceux qui conçoivent l'espoir de vous asservir. C'est enfin parce qu'elle a plus de modération et moins de ressentiment, parce qu'elle a reçu la leçon du malheur comme un ange et comme un philosophe, qu'elle a plus de partisans. Est-ce aussi sur ces accusations que vous la condamnerez? Vous n'oseriez avouer ce terrible secret, mais pourriez-vous espérer de le cacher? Et ne savez-vous pas que tout ce qui est écrit en lettres de sang sera lu par l'univers? Mais votre intérêt même combat encore ce nouvel argument. Le sentiment que de certaines âmes ne peuvent jamais détacher d'un grand malheur se reporte successivement sur les individus de cette famille qui survivent à ceux qu'on immole. Les Français qui versèrent des pleurs sur le destin du roi ont consacré à la reine l'affection déchirante qu'il ressentait pour son époux. Et si la reine périssait à son tour, si le jeune enfant héritier de tant d'infortunes mourait, privé des soins de sa touchante mère, on s'attacherait au reste de cette race persécutée. Et les princes qu'on repousse aujourd'hui intéresseraient encore quand il n'existerait plus qu'eux. Ah, si vous craignez la reine parce qu'on l'aime davantage, c'est elle cependant dont la liberté, dont le séjour hors de France vous serait le moins redoutable. Il est des obstacles qui peuvent irriter l'ambition, mais le cours d'infortune que Marie-Antoinette a parcouru détrompe des hommes et de la vie au sortir du tombeau, n'en aspire pas au trône. Et cette longue infortune ôte presque jusqu'au besoin du bonheur. Sa piété religieuse, sa tendresse dévouée, tout vous est garant qu'elle a détaché son cœur d'elle-même et que le retour à l'existence, à la nature, suffirait pour occuper le peu d'années dont il lui reste encore la force. Peut-être réserve-t-on sa délivrance comme un moyen de négocier avec les Autrichiens. Sans doute qu'en remettant entre les mains de l'empereur la reine et ses enfants, on obtiendrait beaucoup du petit-fils de Marie-Thérèse. Et l'Europe entière est tellement attachée par l'étonnante histoire de ces victimes infortunées qu'en faisant cesser leur malheur, on soulagerait tous ceux qui pensent. Mais quand des considérations politiques détourneraient les puissances de céder à la seule voie du sentiment, quelle honte pour les Français de condamner la reine parce qu'elle serait sans défense. Ils auraient accordé sa vie à la terreur. Ils la refuseraient à la justice. Et leur dépit atroce et pusillanime s'exercerait sur une femme après s'être assurée qu'elle restait sans appui. Non, je ne puis le croire. Non, le passé, quel qu'il soit, ne donne point encore l'idée d'une telle action. Mais les inspirateurs de cet attentat ignoreraient-ils ce qu'ils ajouteraient à l'énergie de l'armée des Autrichiens par la nouvelle du supplice de Marie-Antoinette? Ce qui a doublé la force des troupes françaises depuis un an, ce qui rend les guerres civiles plus sanglantes que toutes les autres, c'est que chaque soldat fait plus qu'obéir. Il combat par sa propre impulsion, pour le succès de son sentiment individuel. Eh bien, vous auriez créé parmi les Allemands un mouvement national en sacrifiant la fille de Marie-Thérèse. Et il n'est pas un Hongrois qui ne vit en vous un ennemi personnel. Ah, quand ils jurèrent à l'illustre mère d'Antoinette de mourir pour la défense de son fils, quand un vœu libre, universel, revêtu de tous les caractères de souveraineté que vous reconnaissez, lia le peuple à sa cause. Pensez-vous que si le génie de l'histoire leur eût présenté sa fille captive, outragée, immolée, cette nation n'eût pas répété mille fois le serment de la venger? Vous n'aurez point à combattre les satellites d'un despote, mais les courageux amis d'une malheureuse victime. Des soldats enthousiastes à leur tour, invincibles, comme les vrais défenseurs d'une liberté généreuse. Peut-être une sombre fureur persuaderait-elle à quelques-uns que la toute-puissance de l'avenir ne pourrait rien diminuer de l'horreur qu'inspirent les jours sanglants qui servent d'époque à cette année terrible. J'ignore s'il existe un terme au-delà duquel de nouveaux événements ne produisent plus de nouvelles sensations. Mais il est certain, du moins, que la France gouvernée, dominée successivement par tant d'individus divers, ne présente que des règnes momentanés, qui, ne changeant aucun homme du poids de l'histoire de tous, permettent à chacun de s'absoudre par une action généreuse. Ah, que la défense de la reine, que sa liberté soit l'objet d'une telle émulation! Ces juges qui vont prononcer sur son sort, par leur petit nombre, par leur fonction, sont désignés à l'attention de l'Europe. Aucun emploi, aucune puissance étrangère à leur mission solennelle ne peut effacer en eux le caractère d'assassin ou de libérateur de la reine. N'étant point revêtus de la représentation nationale, ce sont les cris des tribunes de Paris ou la voix de leur conscience qu'ils peuvent appeler le vœu de la France. Est-ce à leur terreur qu'ils veulent céder? Est-ce à la vertu qu'ils savent obéir? Ah, s'ils donnaient l'exemple de résister aux passions momentanées, comme ils enchaîneraient puissamment l'avenir! Les chances du hasard seraient fixées en leur faveur, l'estime des hommes, ce bien dont les jouissances se multiplient sous tant de formes, dans tous les temps, dans tous les pays, se placerait entre eux et le malheur. Et cette gloire, il la devrait au mépris d'un péril plus éclatant que redoutable. Le peuple français, je le crois encore, peut être ému par le courage et la vertu. Le fanatisme des opinions politiques le dénature. Mais, lorsque des républicains le rappelleraient à ses sentiments naturels, le menaceraient de leur résignation, défieraient sa fureur en s'y livrant sans résistance. Non, ils n'auraient rien à craindre. On pourrait envier leur mort, mais je répondrai de leur vie. Peuple français, ne trompez pas ce dernier mouvement, ce dernier resté des antiques souvenirs. Si vous êtes vaincu en préservant la reine, vous laissez quelques sentiments doux à ses amis. Ils pourront parler encore de votre courage et de votre infortune. Voulez-vous trouver l'art de déshonorer la valeur et de faire peur de la pitié? Si vous êtes vainqueur, si vous repoussez une seconde fois l'ennemi de votre territoire, vous vous croirez triomphant comme la nature même des choses. Eh bien, c'est alors que si vous persistez dans votre cruauté, si vous immolez la reine, vos succès mêmes périront au milieu de vous. Ne vous y trompez pas. C'est peut-être la destruction de la royauté, des ordres privilégiés qui irritent contre vous la plupart des gouvernements de l'Europe. Mais ce qui soulève les nations, c'est la barbarie de vos décisions. Vous gouvernez par la mort. La force qui manque à la nature de votre gouvernement, vous la retrouvez dans la terreur. Et là où il existait un trône, vous avez élevé un échafaud. Ce qui fit la force des premiers principes de la Révolution, c'est qu'il semblait le retour aux idées naturelles. Quel plus terrible renversement des sentiments innés dans le cœur de l'homme que l'ostentation de la cruauté, que cette éloquence qui ne cède que de la menace, que ces serments qui ne promettant que la mort, dans la sorte d'ivresse où plonge une révolution, on oublie jusqu'à sa propre nature. On croit le reste du monde changé comme soi-même. Mais l'homme de tous les pays, de toutes les opinions, frémit à la redoutable pensée de la mort. Et si l'on veut parvenir à l'enlever à cette sensation primitive, dès qu'il revient à lui, il déteste les moyens terribles qui l'ont détourné d'un sentiment invincible, d'un retour personnel de l'humanité. Ah, je veux vous parler selon vos désirs, arbitre de la vie de la reine. Je veux vous implorer. Soyez juste, soyez généreux envers Marie-Antoinette. Soyez jaloux de sa gloire. En l'immolant, vous la consacrez à jamais. Vos ennemis vous ont fait plus de mal par leur mort que par leur vie. Vous étiez tout puissant quand vous avez commencé à punir. Et si vous aviez été clément envers eux, c'est alors qu'on aurait pu les croire coupables. Si les chances de la prospérité vous reviennent une seconde fois, si la Providence protectrice de la liberté veut une seconde fois donner à la France et les moyens de l'acquérir et ceux de la faire aimer des hommes. Les esprits fatigués par tant de cruelles secousses, quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs souvenirs, embrasseraient facilement la plus légère espérance. Le repos et la paix, voilà peut-être aujourd'hui toute l'ambition des plus habiles. Vous disposez de la France, de ce pays si nécessaire à ceux qui l'ont habité. Ah, si vous parliez d'union et de sécurité à tous les Français, si vous rassuriez l'Europe par des principes d'ordre et de justice, vous ne prévoyez pas vous-même combien de sacrifices vous obtiendriez. Si vous êtes destiné à terminer heureusement cette guerre, essayez sur vos concitoyens la puissance de la générosité. Elle s'étend, elle pénètre où vos commandements sont forcés de s'arrêter. Et cette génération qui s'avance est tellement accablée d'infortune que depuis la vie jusqu'au bonheur, tout lui semblerait de nouveau don. Mais surtout, sauver la reine, on ne pourrait supporter cette nouvelle catastrophe, redouter les forces du désespoir et que les pleurs du monde obtiennent, ou de votre orgueil, ou de votre pitié, le salut de cette touchante victime. Mais pourquoi, me diront les philosophes de ce temps, pourquoi votre cœur ne s'est-il pas autant attendri sur le sort de tant d'infortunés que le cours de la Révolution a vu périr? Seriez-vous du nombre de ceux qui plaignent un roi plus qu'un autre homme? Oui, je suis de ce nombre, mais ce n'est point par la superstition de la royauté, c'est par le culte sacré du malheur. Je sais que la douleur est une sensation relative, qu'elle se compose des habitudes, des souvenirs, des contrastes, du caractère enfin, résultat de ces diverses circonstances. Et quand la plus heureuse tombe dans l'infortune, quand une princesse illustre est livrée à l'outrage, je mesure la chute et souffre de chaque degré. Enfin, la reine serait coupable, l'univers entier ne s'intéresserait pas à sa destinée qu'après l'année qu'elle vient de vivre, nul homme, nulle association d'hommes n'a le droit de lui donner la mort. Cette longue suite de souffrances pénétrée d'un sombre respect, elle devait périr mille fois sous tant de coups redoublés. La nature, le ciel en la sauvant, voulant déclarer sacrée. Depuis un an que le secret le plus impénétrable entoure sa prison, on a dérobé tous les détails de ses douleurs. Mille précautions ont été prises pour en étouffer le bruit. Un tel mystère honore le peuple français, et tout mon espoir est dans les motifs qui l'ont fait juger nécessaire. Il aurait su, ce peuple, qu'on apporta devant la fenêtre de la prison de Marie-Antoinette la tête de son amie. Ignorant les fatales nouvelles de ce jour épouvantable, on la força par un barbare silence de s'étudier à reconnaître ses traits ensanglantés et d'apprendre à travers l'horreur de la nature et l'effroi de ses sens que celle qu'il avait aimée mourait victime de son attachement pour elle. Cruels ordonnateurs de cette scène, qui vite devant vous son malheureux objet prêt à mourir de désespoir, saviez-vous tout ce que les circonstances, la cause de la mort de Madame de Lamballe, devait ajouter de déchirement à la douleur de la reine, et les mouvements d'un cœur sensible, ces mouvements qui devaient tant vous être inconnus, les aviez-vous appris pour être plus certain de vos coups? Pendant le procès du roi, chaque jour abreuvait sa famille d'une nouvelle amertume. Il est sorti deux fois avant la dernière, et la reine retenue captive, ne pouvant parvenir à savoir ni la disposition des esprits, ni celle de l'assemblée, lui dit trois fois adieu dans les angoisses de la mort. Enfin, le jour sans espérance arriva, celui que les liens du malheur lui rendaient encore plus cher, le protecteur, le garant de son sort et de celui de ses enfants, l'intérêt tout-puissant de son âme suspendue. Cet homme, dont le courage et la bonté semblaient avoir doublé de force et de charme à l'approche de la mort, dit à son épouse, à sa céleste sœur, à ses enfants, un éternel adieu. Cette malheureuse famille voulut s'attacher à ses pas. Leurs cris furent entendus des voisins de leur demeure. Et ce fut le père, l'époux infortuné, qui se contraignit à les repousser, craignant d'expirer dans leurs bras, ne voulant pas d'une mort si douce, et se réservant pour le supplice dont sa constance devait faire la gloire de la religion et l'exemple de l'univers. Le soir, les portes de la prison ne s'ouvrirent plus, et cet événement, dont l'impression remplit alors le monde, fut concentrée dans la méditation solitaire de deux femmes malheureuses, qui ne furent soutenues que par l'attente du même sort. Nul respect, Nulle pitié ne consola leur misère. Mais rassemblant tous leurs mouvements au fond de leur cœur, elles surent y nourrir la douleur et la fierté. Cependant, douces et calmes au milieu des outrages, leurs gardiens se virent obligés de changer sans cesse les soldats apposés à leur captivité, de choisir avec soin pour cette fonction les caractères les plus endurcis, de peur qu'individuellement elles ne reconquissent la nation entière. Depuis l'affreuse époque de la mort du roi, la reine a découvert s'il était possible de nouveaux soins à donner à ses enfants. Pendant la maladie de sa fille, il n'est aucun genre de service que sa tendresse inquiète n'ait voulu lui prodiguer. Il semblait qu'elle avait besoin de contempler sans cesse les objets qui lui restaient encore pour retrouver la force de vivre. Et cependant, un jour, on est venu lui ôter son fils. L'enfant, pendant 2 fois 24 heures, a refusé de prendre aucune nourriture. Jugez qu'elle est sa mère par le sentiment énergique et profond qu'à cet âge déjà, elle a su lui inspirer. Malgré ses pleurs, au péril de sa jeune vie, on a persisté à les séparer. Ah, comment avez-vous osé, dans la fête du 10 août, mettre sur les pierres de la Bastille des inscriptions qui consacraient la juste horreur des tourments qu'on y avait souffert. Les unes peignaient les douleurs d'une longue captivité, les autres l'isolement, la privation barbare des dernières ressources. Et ne craignez-vous pas que ces mots, ils ont enlevé le fils à sa mère, ne dévorassent tous les souvenirs dont vous retraciez la mémoire. Voilà le tableau de l'année que cette femme infortunée vient de parcourir. Et cependant, elle existe encore. Elle existe parce qu'elle aime, parce qu'elle est mère. Ah, sans ce lien sacré, pardonnerait-elle les vœux qui voudraient prolonger sa vie? Mais lorsque malgré tant de maux, il vous reste encore du bien à faire, traînerez-vous du cachot au supplice cette intéressante victime? Regardez-la, cruelle, non pour être désarmée par sa beauté, mais si les pleurs l'ont flétrie, pour contempler les traces d'une année de désespoir. Que vous faudrait-il de plus si elle était coupable? Et que doivent donc éprouver les cœurs certains de son innocence? Je reviens à vous, femme, immolée toute dans une mer si tendre, immolée toute par l'attentat qui serait commis sur la faiblesse, par l'anéantissement de la pitié. C'en est fait de votre empire si la férocité règne, c'en est fait de votre destinée si vos pleurs coulent en vain. Défendez la reine par toutes les armes de la nature. Allez chercher cet enfant qui périra s'il faut qu'il perde celle qu'il a tant aimée, qui sera bientôt lui-même un objet important par l'inexprimable intérêt que tant de malheurs feront retomber sur sa tête qu'il demande à genoux la grâce de sa mère. L'enfant peut prier, l'enfant se signore encore. Mais malheur au peuple qui aurait entendu ses cris en vain, qui repousserait tous les sentiments du cœur, ce n'est pas à lui que la liberté serait destinée. Et l'espoir des nations, qui se détachent avec tant d'efforts du destin de la France, ne pourrait plus entrevoir dans l'avenir aucun événement réparateur de cette génération désolée.